Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Clap, votre rendez-vous cinéma chaque samedi à 14h. Nous sommes ensemble pour parler cinéma et surtout pour se divertir cette semaine car je me trouve au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez et en compagnie de mes invités, je vais vous faire vivre comme si vous y étiez cette 25e édition. Alors faut savoir que ce festival est le seul festival européen qui met à l'honneur la comédie et depuis 25 ans, il est devenu le rendez-vous incontournable aussi bien pour les journalistes que pour le public. C'est à l'Alpe d'Huez que les meilleures comédies de l'année sont présentées. Vous verrez, je vous dirai tout dans un instant. Didier Allouche nous livrera, comme chaque semaine, son JT d'Hollywood. Et dans quelques secondes, se succéderont au micro de Clap Edouard Baird, Kev Adams, Artus ou encore Mathilde Seigné et José Garcia. Mais il en manque un à l'appel pour que cette émission soit totalement réussie. Il est ici depuis le début du festival et je peux vous dire qu'il en passe du bon temps entre fondue et bataille de boules de neige. Il ne sait plus où donner de la tête. Bonjour Franck Vallière.
Bonjour Laurie, bonjour à tous. Je suis épuisé. Tout cela est épuisant. J'ai les zygomatiques bloqués. Il va falloir que je consulte un chiro du zygomatique. Je ne sais pas comment je vais me bloquer.
Rassurez-moi, vous avez vu quand même quelques films parce que c'était le but.
Ah bah plein.
Ah bon bah ça va.
Hélas, pas tous, mais il y a une telle programmation ici que.
Vous avez fait aussi de très belles rencontres. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques personnes?
Ah bah écoute, attention, parce que là, depuis le début de la semaine, il s'en est passé. Comme l'Alpe d'Huez est un peu le Cannes de la poilade, on a croisé Franck Dubosc, bien sûr, qui est venu présenter un truc en compétition.
On va l'écouter dans un
Thierry
instant.
Thierry Lhermitte, Audrey Lamy, Gérard Jugnot, que nous saluons tous, car on sait qu'il, c'est votre Yaski.
Ah bah non, on ne le savait pas, vous l'apprenez, mais vous allez tout nous raconter, parce que vous allez nous donner les offs du festival aussi.
Il était chez le Chiro hier soir, et je crois savoir qu'il est redescendu. Les 21 virages vont pas être simples pour redescendre au Bourdoisan, je pense.
Bon, on retrouvera tout ce beau monde dans un instant dans l'émission. Voilà pour le programme de votre Clap qui commence maintenant.
Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Cette semaine, dans Clap, on célèbre un événement. Alors, qui dit événement dit forcément émission spéciale. On a enfilé avec Franck Vallière nos après-ski, nos gants et nos doudounes, parce que croyez-moi, il fait froid ici. Et non, ce n'est pas pour faire un remake des Bronzés font du ski, pas de panique. Nous sommes là pour la 25e édition du Festival international du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Alors, l'Alpe d'Huez, Franck, c'est le seul festival européen qui récompense et met à l'honneur la comédie. Et c'est vrai que c'est devenu un rendez-vous incontournable au fil des années.
Bah, c'est la mec. C'est-à-dire qu'on voit en une semaine.
C'est le pèlerinage.
On sortir sur l'année. Enfin, c'est compliqué maintenant les sorties parce qu'entre le Covid, les salles sont fermées et ouvertes. On espère que ça va aller bien mieux. Mais il y a beaucoup de sorties qui sont décalées. Mais le fait est que la grosse majorité des grosses comédies qu'on verra dans l'année sont présentées ici, oui.
Alors, et puis c'est l'un des seuls festivals à proposer toutes les projections gratuites. Donc une entrée libre pour le public et c'est assez rare pour être souligné. Et chaque année, depuis sa création, on a pu découvrir des comédies qui sont maintenant cultes comme celle-ci.
Une fois arrivé là-bas, appelez-moi pour me dire qu'il l'a bien reçu en main propre.
J'ai entendu. Je vous appelle et je vous dis quoi?
Eh ben qu'il a bien le dossier en main.
Oui, c'est ça. Je vous appelle de là-bas et je vous dis quoi?
Quoi? Mais je viens de vous le dire quoi?
Oui, j'ai bien compris.
Bien sûr, c'est Bienvenu chez les Ch'tis, prix spécial du jury en 2008 pour Danny Boone. Il y a eu aussi la découverte à l'Alpe d'Huez de La Première Étoile de Lucien Jean-Baptiste ou encore l'inoubliable Nos Jours Heureux qui révélait également l'actrice Joséphine Demont.
Écoute Benoît, les piscines c'est pour les enfants. Normalement, tu devrais aimer aller à la piscine. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un petit con, casse-couille, qui prend la tête, d'accord? Hein? Un espèce de petit enculé de merdeux qui chie à sa race toute la journée. Voilà ce que t'es, connard!
On se souvient aussi, au Festival de l'Alpe d'Huez, du Sacre de tout ce qui brille, de Géraldine Nakache.
Jordan, si tu le fouettes encore une seule fois, c'est moi qui te fouette là!
Oui, mais m'a dit ta mère la caissière!
Chris, pourquoi tu as dit ta mère la caissière?
Mais elle est caissière, sa mère!
Elle est caissière, ta mère?
Oui!
Ben alors!
Et puis, on se rappelle de la présentation de Babysitting, prix spécial du jury et prix du public en 2014.
Non, faut se mettre dans la tête du môme. À sa place, on irait où?
Ah, moi, quand j'étais petit, j'ai fugué une fois.
Et t'es allé où?
Ah bah, au bout de 3 jours, personne s'en était rendu compte, alors bah, je suis rentré à la maison.
On pourrait citer tellement de films qui ont conquis le public de l'Alpe d'Huez, Franck. Il y avait Divorce Club, il y a 2 ans.
Oui. Il y avait l'Ascension avec Ahmed Silla qui a été révélé là. Il est revenu d'ailleurs cette année en compétition. Il y avait La Vérité si je mens.
Tout le monde debout, le premier film de Franck Dubosc. La Vache aussi.
Et dont l'acteur principal est revenu dans une comédie avec Alban Ivanov qui est à se pisser de rire dessus.
Oui, ah, parce que l'Alpe d'Huez, on y revient. C'est ça le but de ce festival. Alors, au programme chaque année, donc des comédies très attendues, des avant-premières, des récompenses. En parlant de récompenses, après Gérard Jugnot, Chantal Lobby, Kad Merad, Florence Foresti, Omar Sy ou encore Franck Dubosc, c'est Michèle Larocque cette année qui est présidente du jury. Elle sera accompagnée notamment de Mathilde Seigné qui sera avec nous dans quelques instants sur Europe 1. Alors, Franck, je disais, vous êtes là depuis le début du festival. Est-ce que vous avez vu de bons films?
Oui, beaucoup et d'une qualité assez incroyable, je dois dire. Il y a quelque chose, il y a des crevettes pailletées qui sont revenues pour la suite et c'est beaucoup plus esthétique que le premier encore. Je trouve qu'il y a quelque chose de très, très esthétisant dans les comédies qu'on voit. Il y a moins de comédies classiques, chant contre chant, une vanne à ventre mou, on revient. Il y a des choses très, très variées, très diverses en fait.
Et quelle est l'ambiance dans ce festival? Écoutez, ça rigole beaucoup.
Ça rigole beaucoup, mais on voit les yeux qui sont bridés parce que tout le reste est sous des masques. Alors, il y avait les masques de ski, d'accord, mais maintenant c'est des FFP2. On ne peut plus les enlever où que ce soit. Dès qu'on est à l'intérieur, on est obligé de les garder, mais ça rit à travers le masque et la salle.
Puis il y a une ambiance bon enfant, les gens sont contents d'être là, les acteurs et les actrices sont contents de se retrouver. Et puis ça balance un peu, écoutez Élodie Fontan justement à votre micro, Franck Vanière, qui balançait quelques vérités sur Philippe Lachaud. Ah.
Vous voyez le beau costume qu'il a quand il arrive là en super-héros, il claque, il est voilà, sexy, beau gosse. Et bien on a découvert dans les loges que quand il retirait son costume, il y avait des petites prothèses de mousse partout. Voilà, notamment au niveau des fesses, bien rembourrées, qui n'étaient donc qui étaient considérées comme de la triche. Voilà, donc ça on l'a découvert, qui trichait à pas mal d'endroits de son corps. Et que, ça on le savait aussi, que la scène où on voyait ses fesses, au final, c'était pas ses fesses, c'était pas lui.
Ah bah mince.
Et d'ailleurs, il m'a confié après qu'il ne les reprendrait plus pour son prochain film, parce qu'ils avaient révélé. Voilà.
La bande à Fifi.
Parce qu'il y a des scènes, où il est en salle de muscu où c'est vraiment lui, mais par contre, ses fesses ne sont pas les siennes dans Super Héros Malgré Lui.
D'accord, ben merci pour ces précisions. Je rappelle que Philippe Lachaud présentait donc Hors Compétition, Héros Malgré Lui, où il joue un super-héros qui s'appelle Batman.
Oui.
Est-ce que Franck, il y a déjà des comédies, puisque le palmarès sera rendu ce soir, c'est ce soir la cérémonie de clôture du festival, est-ce qu'il y a des comédies qui semblent se démarquer?
Alors, jouer des pronostiqueurs à quelques heures d'un palmarès, c'est souvent se vautrer. Alors, je vais y aller mollo, mais je vais vous parler quand même au moins de Irréductible, de Jérôme Commandeur, qui a fait... Oh, c'est affreux à dire parce que ça ne veut pas dire que son précédent travail n'était pas intéressant, mais là, c'est foisonnant, c'est beau, c'est multicouche, c'est comme un Walt Disney. Les petits peuvent comprendre des blagues, mais les grands aussi. Ça riait à droite, à gauche, ça riait tout le temps. C'est tellement foisonnant et beau. On voyage en Suède, auprès du pôle Nord, en principe, et il y a plein de guests. Il y a Valérie Lemercier, parce que l'humour de Jérôme Commandeur se rapproche beaucoup de celui de Valérie Lemercier.
C'est vrai.
Et il y a des guests... assez intéressant.
Et il y a Christian Clavier. Écoutez Jérôme qui vous en parlait.
C'est une cascade qu'il a fait faire à Christian Clavier, Jérôme Commandeur dans le film.
C'est la première fois que Christian faisait un rôle de gauche. Il était très heureux. Je l'ai emmené dans un local CGT. Il a pris des photos. Il était très ému. Il m'a dit, je vais montrer ça à ma famille. Il n'avait jamais vu ça. Je le taquine. Je pense que je vais me prendre un retour de bâton de Christian, mais c'est pas grave.
Clavier joue un syndicaliste ultra-gauchiste dans le film. Et donc,
c'est génial. Ouais. Voilà, donc Irréductible, ça fait partie quand même des films dont tout le monde parle ici. On verra ce soir s'il reçoit un prix. Et puis un film qui était présenté hors compétition, qui était très attendu aussi, c'est le nouveau film de Franck Dubosc, Rumba la vie. Franck Dubosc, que vous avez rencontré?
Ben oui, il est venu présenter ce film qui est donc hors compétition. Il sortira plus tard parce qu'il a été décalé, je crois, cet été, il me semble.
Exactement, il sort fin août.
Il est venu avec son actrice principale, Luna. Et... parce qu'il y a un truc qui est quand même très amusant, c'est que les univers se mélangent chez Franck Dubosc. Vous savez qu'il a tourné une comédie qui sortira à Noël prochain, qui s'appelle Joyeux Noël, avec Emmanuel Devos, chantre du cinéma d'auteur. Et là, il y a quelqu'un qui joue dans ce film, dans Rumba, avec Franck Dubosc, qui est totalement inattendu à cet endroit. Vous savez qui c'est?
Non, vous allez me le dire.
Un certain Michel Houellebecq.
Son agent a appelé mon agent pour dire qu'il adore Franck Dubosc, qu'il voudrait tourner avec lui. C'est surprenant, mais voilà, il y avait un beau rôle pour lui, enfin, qui lui correspondait bien, c'était le docteur. Et surtout, je savais que le docteur commençait par « Rassurez-vous, c'est moi qui vous ai opéré, tout s'est bien passé ». Et avec la tête de Michel Houellebecq, je savais que ça serait un bon début de personnage.
Voilà, donc on disait plusieurs films qui étaient présentés tout au long de la semaine, en compétition, hors compétition. Il y avait aussi Maison de retraite avec Kev Adams, qui sera avec nous dans un instant. La Brigade avec Audrey Lamy et François Cluzet. Homme au bord de la crise de nerfs, le nouveau film d'Audrey Nana avec Ramzi Bedia ou encore Thierry Lhermitte et François-Xavier Demaison, Irréductible, nouveau film de Jérôme Commandeur. Et ce soir, donc, ce sera la cérémonie de clôture, sans oublier les films hors compétition. Donc, beaucoup d'événements tout au long de la semaine. Franck, vous restez à mes côtés. On va retrouver Didier Alouche depuis Los Angeles qui va nous dire, lui également, comment se portent les comédies, mais du côté d'Hollywood.
Il doit faire plus chaud là-bas qu'ici. Hein.
Oui, mais c'est pas terrible pour la comédie.
Voilà. Salut Laurie, salut à tous. Les films, le soleil, les pentes enneigées, les raclettes, oh comme vous devez bien vous amuser à l'Alpe d'Huez. Pardon, les interviews, les projections, les émissions, vous devez travailler comme des fous au Festival de la Comédie. Et ben ici, on n'a pas les Alpes et en fait, on a de moins en moins de comédie. La comédie, c'était un genre porteur à Hollywood. Dès ses origines, l'industrie hollywoodienne a reposé sur les Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy et plus tard sur des auteurs comme Ernst Lubitsch, Billy Wilder, Mel Brooks ou Woody Allen. Et plus récemment, des comiques comme Will Ferrell, Kevin Hart ou Melissa McCarthy remplissaient les salles et les tiroirs-caisses. Mais depuis quelques années, les choses changent. En 2021, sur les 30 premiers films du box-office de l'année, pas une seule comédie. Des blockbusters, films fantastiques ou d'action avec des éléments de comédie dedans, comme SOS Phantom ou Shang-Chi, oui, mais des pures comédies, aucune. Je me suis dit que c'était sans doute parce que l'année était particulière à cause du Covid. Je suis donc allé vérifier ça sur 2019, la dernière année à peu près normale en date. Et là, pareil, pas une seule pure comédie dans les 30 premiers films du box-office cette année-là. La comédie américaine serait-elle finie? Ne rit-on plus à Hollywood? La réponse est « vous inquiétez pas les amis, tout va bien pour les comiques américains, on ne rit plus trop dans les salles, mais par contre, sur les plateformes, on se prend de ses barres ». La comédie a migré vers Netflix, Amazon, Hulu et compagnie. Will Ferrell chante très mal dans le Eurovision de Netflix, Seth Rogen joue les Hibernatus fabricants de cornichons d'un American Pickle sur HBO Max, Eddie Murphy cartonne sur Amazon dans Un Prince à New York 2, toute une nouvelle génération de comiques de tous sexes et de toutes couleurs explose dans des dizaines de séries de plateformes. Bref, ça va bien pour la comédie, mais pas au cinéma. Que s'est-il passé? Difficile à dire, c'est un phénomène tellement symptomatique du nouveau paysage cinématographique américain. Certains films, certains genres ne trouvent tout simplement plus leur place sur les écrans. Par définition, la comédie est un genre simple qui repose sur les mots et sur ceux qui les disent, sur les scénarios et sur les acteurs. Et pas, sauf exception, sur des budgets mirobolants ou des milliers d'effets visuels. La comédie n'a pas besoin de ça. Et les spectateurs ont tout simplement jugé qu'ils n'avaient pas besoin du grand écran pour rigoler devant un film. Et comme Hollywood ne fait que ce que le spectateur lui demande, il y a peu de chances de revoir de sitôt des pures comédies dans les salles américaines. Alors, ami Frenchy, appréciez de pouvoir encore exploser de rire au cinéma. En Amérique, c'est de plus en plus rare.
Et c'est vrai qu'on a de la chance en France, la comédie se porte bien et elle se diversifie. Nous sommes toujours au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui fête ses 25 ans cette année avec de nombreuses personnalités et certaines seront avec nous dans quelques instants. José Garcia, Mathilde Seigné ou encore Kev Adams et Artus. Mais tout de suite, c'est Edouard Baird qui arrive dans le studio pour nous parler de son tout dernier film, Adieu Paris. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, 14h-15h, Clap. Laurie Choleva.
Vous êtes toujours à l'écoute de Clap sur Europe 1 et cette semaine, c'est une émission spéciale à l'occasion du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Alors mon premier invité, c'est un maître en matière d'humour, sur scène, au cinéma, à la radio, partout en fait. Il est acteur, réalisateur, il maîtrise les mots, l'ironie, la poésie, mieux que personne. Merci Edouard Baird d'être là.
Et mannequin aussi, merci
mannequin
Laurie Choleva.
Je ne pouvais pas tout dire.
C'est plus ma carrière dans le mannequinat, moi qui peut-être les gens connaissent plus dans ce travail-là. Non mais merci de votre accueil. Écoutez, est-ce que je dois faire semblant d'être à l'Alpe d'Huez en
disant,
un froid, mais il fait un froid, mon Dieu, il a neigé. Vous avez eu des très très mauvais acteurs radio.
On a enregistré cette interview à Paris. Voilà, on peut le dire.
On est téléportés. Vous êtes un peu comme Mélenchon dans les meetings là. Vous êtes en hologramme.
On est
en
hologramme. On va parler ensemble, Edouard, d'Adieu Paris, votre quatrième film.
Janvier 2022. Après tous ces mois forcés à partager tous ces repas en famille, venez déjeuner avec des légendes de la vie parisienne.
C'est une vieille tradition ancestrale. Ça fait 20 ans qu'il faut se déjeuner.
C'est toujours agréable de louper le début.
Je sais même pas comment t'as le culot de te présenter ici aujourd'hui après ce qui s'est passé.
Des gens qui savent se détester.
Qui a été le plus lamentable cette année?
Bonne ambiance.
Tu vois le Didi de con?
Oui.
Eh ben c'est nous les cons.
Je vous avais dit qu'il y aurait une bonne ambiance dans cette émission. Mais... C'est votre quatrième film, il sortira le 26 janvier prochain. C'est un déjeuner d'hommes, de vieux amis qui se retrouvent autour d'une table. C'est un peu leur tradition. Ils se retrouvent à la Closerie des Lilas, qui est un restaurant emblématique à Paris. Et ils font le bilan sur leur vie. Il y a aussi des faux semblants. Enfin, voilà, il se passe beaucoup de choses au cours de ce déjeuner. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce film, Edouard?
Bah oui, c'est un déjeuner massacre un peu. C'est que ça, ça m'amuse les choses qui ont l'air de se passer comme avant, qui bougent pas. Puis en fait, c'est plus du tout comme avant. Vous savez, c'est comme quand les rituels continuent, mais il n'y a plus rien dedans. C'est-à-dire qu'on fait seulement se retrouver, rien n'a changé. Puis tout à coup, l'époque est tellement différente qu'à un moment, ça explose, quoi. Donc là, c'est des gens qui, depuis 50 ans, des jeunes, ils se sont crus les rois d'un monde, quoi.
Les rois du monde.
Ils sont touchants, un peu comme des. Moi, c'est un peu comme les personnages de comédie italienne. Ils sont tragicomiques, quoi. Ils sont à la fois délirants, attachants et insupportables.
Puis ils sont jamais complètement mauvais, jamais
non.
complètement bons.
Bah non, ils sont tout à fond à la fois, quoi. Ils sont très extrêmes, et c'est là où ils sont le pire qu'ils sont les meilleurs, comme on dit. C'est là où ils sont le plus cauchemardesques qu'on les aime, je crois.
C'est du vécu.
Oui, ou c'est une peur de vivre ça. C'est peut-être déjà. Non, c'est une peur qu'on a tout à coup de quand on reproduit des entre-soi ou des trucs de devenir ça un peu quand on veut rester toujours la même chose. Parce que le drame de ces gens, c'est qu'ils pourraient tout à coup changer, en vieillissant, ils pourraient s'amuser. Et puis il refuse. Dans le film, c'est symbolisé par Benoît Poulvorde, qui est tout à coup leur occasion.
Qui
un
a
peu
l'intrus.
De... Voilà. Oui, mais en même temps, ça pourrait être le bienvenu. Et puis non, oui, par principe, il refuse. Il le refuse et il se gâche le déjeuner.
Comment est-ce que vous avez écrit ce film ? Je crois que vous l'avez écrit pendant le confinement. Est-ce que déjà il y avait une nostalgie de cette ambiance parisienne ?
Non, c'est pas lié au confinement du tout. C'est des vieux thèmes parce que j'ai beaucoup admiré quand j'ai commencé ce métier les. Par exemple, les bandes d'acteurs, c'est vrai, la bande, par exemple, la fameuse bande du conservatoire, Rochefort, Mariel, Belmondo, Crémer, bon. Et puis j'aimais bien les gens qui en dehors de leur métier, avaient l'air aussi à la ville des personnages, quoi.
Alors, quand même, on va parler de vos acteurs, hein. Immense casting, Pierre Arditi, Jacques Berroyer, François Damiens, Benoît Poulvorde, on l'a dit, Bernard Lecoq, il y a Gérard Depardieu, il y a votre amie Isabelle Nanty, Bernard Murat, Léa Drucker, Daniel Prévost, Jean-François Stévenin, je pense que j'ai dû en oublier, forcément.
Je vous regardais, j'étais distrait. Non, pardon. Oui, il y a un beau casting, il y a des acteurs déments. Mais parce qu'ils incarnent, c'est plus que des acteurs, c'est des personnages beaucoup, donc c'était utile pour le film, ils amènent beaucoup de choses à eux.
Ce qui est fantastique dans ce film, c'est qu'on a l'impression que vous nous embarquez dans un vrai déjeuner avec ces acteurs qui ne jouent pas. On est toujours sur le fil, en fait, entre fiction et vie. On ne sait pas, on se demande si tout a été écrit, s'il y a eu beaucoup d'improvisation. On a l'impression que c'est vrai, en fait.
Ah bah écoutez, ça c'est un compliment qui me touche beaucoup, parce que c'était un peu l'idée, parce que j'avais du mal au cinéma à retrouver cette énergie du théâtre. Moi, quand je suis sur scène, j'ai l'impression que c'est ça que j'aime, c'est qu'on sait que c'est que ce soir. Donc, comme spectateur, on est pris en otage dans le bon sens, quoi. L'énergie, elle est là, on se dit que ce qui arrive n'arrivera plus. Et je voulais arriver à faire un film où on retrouve cette énergie-là, on se dit, si on va le revoir demain, il sera différent, quoi. On ne sait pas si c'est vrai, si c'est faux.
Alors, il y en a un qui n'a pas vraiment envie d'y aller à ce déjeuner, c'est le suspense du film, c'est viendra-t-il ou non,
oui.
C'est Gérard Depardieu.
Oui, parce qu'il incarne un peu, je crois qu'il y a... Quand il y a comme ça des rituels, des choses qui durent trop longtemps, il y a celui qui y va, qui tenait pas, il y a celui pour qui c'est important d'y aller, il y a celui qui va pour des mauvaises raisons, peut-être qu'il veut taper les autres, leur demander quelque chose, il y a quelqu'un qui va par nostalgie, il y en a qui veulent vraiment s'amuser, puis il y a celui qui a l'impression que c'est trop tard, quoi, voilà, mais qui n'arrive pas à se le formuler. Donc il fait traîner son départ un peu.
Il dit une jolie phrase dans le film, il dit « Si j'ai pas le droit de radoter à mon âge, à quoi ça sert de vieillir ?»
Oui, il dit ça à sa fille, parce qu'elle dit... Souvent, les gens, on répète, le problème des raconteurs d'anecdotes, c'est ça, c'est qu'on les a souvent déjà entendus. J'adorais Jean Rochefort parce qu'il est obsédé par l'idée de paradoter tout le temps. Une anecdote, cher ami, si vous m'autorisez, une anecdote très courte. Et là, c'est toujours très court. Parce que, ben, comme je viens de faire là, je viens de raconter une anecdote sur Rochefort, l'air
c'est
de
vrai.
Rien. Je bascule dans le gâtisme. C'est le mec qui a connu des gens.
La conclusion du film, c'est que l'âge, c'est dans la tête. C'est quand même un film très drôle, mélancolique aussi, c'est vrai. C'est aussi une réflexion sur le temps qui passe, sur l'amitié. Quand même beaucoup de thématiques dans ce film. Je disais tout à l'heure, vous aimez les gens, vous aimez ce côté troupe, vous êtes fidèle aussi dans vos projets, dans votre carrière. C'est quoi pour vous la définition de l'amitié, justement ?
Je crois que c'est comme les sentiments très forts, on ne sait pas du tout ce qu'on avait prévu. On croit que ah ben moi, je voudrais quelqu'un qui soit comme ça. Bah oui, mais ce n'est pas du tout ce que...
Finalement, lui,
ton ami, faut le prendre comme il est. Quoi.
Ah, mais bah c'est peut-être ça la définition.
Mais pour ça, il y a le côté, oui, mais un ami, c'est quelqu'un qui ne vous trahit pas. Bah si. Pourquoi ? Il fait ce qu'il veut, au fond.
Il faut savoir pardonner, alors.
Ah bah ça, oui.
Vous avez déjà été trahi, vous avez pardonné ?
Oh, j'ai trahi aussi, sûrement. Sûrement, bien sûr. Non, mais je ne sais pas, vous savez, les gens impeccables, les gens qui n'ont ni regrets, ni remords, ni placard sombre au fond d'eux, j'y crois pas
c'est
trop.
C'est louche. Je vous ai préparé un petit quiz, puisque nous sommes donc dans une émission spéciale humour, je rappelle, à l'occasion du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Mais nous sommes à Paris en studio, Edouard. Je vous fais écouter un extrait de film, et on va voir si vous reconnaissez le film ou la réplique.
D'accord.
Je suis sûr que vous allez connaître ça par cœur.
Albert, il me me font mal aux yeux, tirons-nous.
Oui, Belmondo, Gabin.
T'as raison, va. On n'a rien à foutre chez les Français moyens.
Et lesquels, ben, qui c'est qui va les payer?
Adressez-vous à l'intendance. Nous, on paye plus. On ne connaît plus, on ne salue plus.
C'est magnifique. Exactement. Face à Paul Francoeur. C'est Paul Francoeur qui fait le patron du bar et il lui met une ébène, Gabin, extraordinaire.
Un deuxième extrait?
Oui.
L'après-midi, je me jetais dans le travail comme il est naturel à l'homme qui se trouve surpris par un spasme de son destin. Sauf à passer pour un innocent, je dois dire que je me disposais pour la première fois à trahir Marthe.
Ah oui.
Et cette pensée m'était odieuse. Les regards de mes collaborateurs, ignorants du drame qui sourdait, et je le savais bien, uniquement dévoués à leur labeur inepte, me faisaient pourtant des brûlures. J'y voyais comme des reproches avancés. Mais au défi d'une société dont je respectais la morale, il me faut reconnaître que la jeune femme en rouge avait embrasé ma conscience.
Sally Dupéret, la jeune femme rouge, et Marthe, c'est l'actrice qui est devenue productrice Daniel Delorme.
Exactement.
Qui joue sa femme, oui.
Un film avec votre ami Jean Rochefort. Un film qui me fait penser à Adieu Paris.
Ah,
un film aussi de bande. Vous parlez de ces bandes d'acteurs.
Mais alors, c'est dément. Vous vous rendez compte, là, c'est la voix off du film quand même. Il y a un recul, il y a une autodérision. C'est fou. Dans la voix de Rochefort, il y a à la fois le premier degré, là, l'histoire, là, l'émotion est là. Et il y a le petit truc en plus d'humour. C'est d'avoir l'humour sans perdre l'émotion. C'est très fort, hein, quand même.
Un troisième extrait.
Je vous présente l'assassin de ma femme.
Oui, très heureux.
Blier de Pardieu dans
le
film de Blier.
Du fait froid.
Du coup de meurtre en ce moment.
Et Carmé.
Ça marche pas mal. Et vous arrêtez les coupables?
Oh,
moins possible.
Connais
tout
par cœur.
Le coupable est beaucoup moins dangereux en liberté qu'en prison.
Pourquoi?
Parce qu'en prison, il contamine les innocents.
Alors là, il y a un mélange de comme ça, ces conversations de bistrot entre Blier, Carmé, Depardieu. C'est dément, Mortel Randonnée. La première scène où tout à coup, il y a Céro qui assassine dans le métro avec un couteau. Il arrête Depardieu qui marche. Il dit, alors je dis, quoi? Vous venez de me tuer? Pas du tout. Mais si, c'est votre couteau récupéré. Mais non, c'est pas mon couteau. C'est un film magnifique.
Bon, j'en ai un dernier. Là, vous allez le trouver encore plus facilement, logiquement.
Là, je laisse courir quand même. Je fais pas le mal.
C'est une bonne situation, ça, scribe.
Ah, je vois pas.
Mais vous savez, moi, je crois pas.
Je peux pas écouter ma voix. Arrêtez-le. C'est écouter sa voix, vraiment. C'est
ma vie aujourd'hui.
C'est un cauchemar.
Vous écoutez, c'est vrai?
Ah non,
vous aimez pas?
Ah non, puis ça, vraiment, je l'ai écouté 10 000 fois. Bah, là, je deviens fou, je vous assure. Parce qu'il y a des gens qui. Je suis ravi que ça plaise, vous imaginez bien, quand vous dites une phrase
c'est
dans
Astérix
un film.
Mission Cléopâtre.
Oui, quand vous dites une phrase dans un film que les gens aiment, c'est extrêmement touchant s'ils la retiennent aussi, mais qu'ils viennent vous le redire.
Non-stop depuis 20
non,
ans.
Mais même, non, mais on n'a pas envie de se réentendre soi. Moi, je préfère que les gens me racontent un truc à eux, en fait.
Alors voilà, si vous voulez profiter et si vous voulez vivre une bonne situation, il faut aller au cinéma le 26 janvier prochain voir Adieu Paris, le nouveau film d'Edouard Baird avec, je rappelle, une pléiade d'acteurs, Pierre Arditi, Jacques Béroyer, François Damiens, Benoît Poulvord, Bernard Lecoq, Gérard Depardieu, Isabelle Nanty, Bernard Murat, Léa Drucker, Daniel Provost, Jean-François Stévenin et un tout petit rôle d'Edouard Baird.
Oui, vous pouvez dire la phrase que j'aime bien à la fin d'une distribution, j'en passe et des meilleurs.
Et j'en passe et des meilleurs.
Voilà, elle est un peu démodée, j'aime bien cette expression. Avec machin, j'en passe et des meilleurs. Ouais, j'aime bien.
Vous revenez quand vous voulez, c'est toujours un plaisir.
Mais imaginez que les gens prennent ça au pied de la lettre. Le lendemain, débarque le type avec ses valoches en studio, dit je m'installe où? Où est la douche? Donc faites attention à vos phrases.
Je pense qu'ils seront contents hein, si vous venez tout chaque semaine nous faire un petit coucou dans le clap.
Merci à vous. Merci beaucoup de votre accueil.
Merci. À bientôt.
Europe 1. 14h, 15h. Clap. Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous à l'écoute de Clap sur Europe 1. J'espère que vous passez un bon moment. Franck Vallière est toujours à mes côtés.
Eh oui.
Ça va, Franck?
Ça va, le festival touche à sa fin, heureusement.
Ouais, mais on va quand même verser une petite larme parce qu'on est bien ici.
Oui, mais c'est fatigant d'être là avec José Garcia tout le temps.
Oui, c'est vrai, vous allez voir, il va arriver. Généralement, il est entouré de ses mariachis.
Oui, alors attention, quand je dis, oui, ça va être. Ouh là là, je ne vous ai pas dit, il est très très en forme.
Il est très en forme. Vous le savez, cette semaine, c'est donc une émission spéciale à l'occasion du 25e anniversaire du Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Alors, Franck, vous avez vu pas mal de films pendant cette semaine. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un thème particulier qui se dégage de la sélection?
Écoutez, il y a chaque année un petit peu des films à tendance, sociale. Et là, par exemple, on sent bien que le collectif est remis au centre des débats. On sent bien qu'on a vécu une période très individualiste dans laquelle chacun était cloîtré chez soi. Et à la sortie de tous ces confinements et de, on l'espère, la fin de cette crise de Covid, il y a quelque chose qui relève de vraiment l'esprit de groupe. Comment rapproche-t-on les gens ensemble ?
La cohésion de groupe.
Voilà, la cohésion de groupe est très importante au sein de ces films. Si on a le temps de citer un ou deux
alors
exemples.
Oui, vous pensez à Homme au bord de la crise de nerfs ?
Homme au bord de la crise de nerfs, qui est très inspiré, on va dire, pour l'idée de départ de Blier, où ce sont des hommes qui vont faire un stage de remise en forme psychologique dans le Vercors. Là, c'est typiquement le collectif au centre des débats.
Et c'est Audrey Dana qui réalise. D'ailleurs, Audrey Dana vous a confié qu'à la base, Thierry Lhermitte voulait rien improviser, que tout était très bien écrit. Et puis finalement...
Je me souviens de Thierry Lhermitte qui me dit « Mais moi, je n'ai pas à improviser sur ce scénario que je trouve très bien écrit. Tu n'arrêtes pas de dire qu'on peut improviser. Je ne vois pas pourquoi j'improviserais. C'est très bien écrit. J2, Audrey, j'ai une idée, viens, vas-y, machin. » Mais c'était... Et tous les jours, c'est lui qui a le plus improvisé.
Il y a un truc amusant avec cette bande d'hommes, c'est qu'ils ont continué de faire un groupe WhatsApp pendant le confinement. Parce que le film, en fait, chez Audrey Dana, est né en 2017. Elle l'a tourné juste avant le premier confinement. Elle a eu le nez creux quand même. Et on bénéficie de tous ces extérieurs. Et ces jeunes gens, tous d'origine différente, Laurent Stoker, Lhermitte, Ramzi Bedia, ont continué d'entretenir des relations et de se faire des dîners arrosés.
Et puis un autre film, je sais que...
Alors, à propos de cohésion sociale et de cohésion de groupe, il y a Louis-Julien Petit qui est revenu avec un film qui s'appelle La Brigade, avec un bel effort cinématographique. Le film est très esthétisant et parle, en gros, c'est The Full Monty chez les migrants. Et ça se passe dans le milieu de la cuisine. Une chef un petit peu déchue se retrouve dans un foyer de migrants et va leur apprendre à faire à manger. C'est très émotionnellement riche et tout en étant très, très beau. Je pense que ce soir, le palmarès...
Ils sont bien partis. Alors attention, hein, là je le vois au loin, je peux donc vous confirmer que José Garcia arrive avec ses mariachis.
Allez, vas-y. Oh, bah. Quiere tomar José García, quiere tomar José García. El mariachi loco quiere tomar, el mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar José García, quiere tomar José García.
Hey. Alors derrière, vous pouvez mettre des spots de pub. Non,
c'est ça. Mais...
C'est
pas, là. Alors, j'avais promis à nos auditeurs de la bonne humeur, donc voilà, José Garcia et ses mariachis.
Mathilde Seigné, la vice-présidente,
non, je suis dans le jury, mais c'est parce que comme Michel est alité,
présidente par intérim.
Voilà.
Et José, là, vous êtes là pour le plaisir, invité du festival.
Évidemment, le plaisir.
Bah, pour son rosé, surtout.
Je ne sais pas. Je suis venu vraiment parce que j'étais président du jury il y a 2 ans et j'avais mon petit rosé qui se détendait. Et là, en fait, El mariachi loco quiere tomar. El mariachi loco quiere tomar. Quiere tomar José García. Quiere tomar José García.
Europa 1. Europa 1.
C'est Europa 1 et on coupait avec de la pub. Mais en même temps, c'est un slogan à la cool.
Non, c'est bien, ça reste. Je disais il y a quelques instants à Franck Valère, il y a quand même une ambiance particulière dans ce festival.
Bah, c'est très, très, très chaleureux, sympathique. C'est très détendu.
C'est très détendu. Mais est-ce que vous avez vu des... Bon, vous allez délibérer tout à l'heure, mais est-ce que vous pouvez déjà dire si vous avez des coups de cœur ? Ça, on peut le dire.
Ah bah, il ne faut rien dire, il paraît.
Rien.
Ah, moi, on m'a dit, dis rien. C'est bon, assez dur pour moi.
Je vais demander comment ça se passait avec Michel, parce qu'elle voit les films donc, à Paris. Vous êtes
Michel
là comme...
Larocque, donc, qui est
Michel
président.
Michel Larocque, qui est président. Non, alors on voit un film en même temps et on s'appelle. D'accord. Juste derrière.
Pour le débrief.
Pour le donner l'avis.
Généralement, ça se passe bien ?
Là, je ne sais pas. C'est peut-être un miracle. Je ne sais pas toi quand tu étais président. Mais là, on a tout le temps le même avis.
Ouais.
Ça, c'est
généralement,
pratique.
Ouais.
C'est vrai, vous aussi,
oui,
ça se passe
de la comédie.
Bien.
Moi, j'ai fait c'est de la comédie. Donc, soit les gens soit rient ou ne rient pas. Et déjà, ça, c'est la première des choses. Et après, on est touché ou pas touché. Mais c'est très facile. Enfin, très facile de... J'ai plus de voix, putain. J'ai l'impression que j'ai chanté
trop
avec des mariachis. Chicos. El mariachi loco quiere tomar.
Et c'est reparti. Vous êtes bien sur Europe 1, si vous posez la question. Et nous
Europe 1, José Garcia.
Ah, voilà, faites-nous une spéciale.
Ah, pas mal.
C'est pas mal, c'est pas
et
mal.
Vous voyez ce que j'ai, c'est que j'ai pas les mecs qui sont là juste axés sur un truc. On peut faire tous les jingles.
Vous adaptez.
On peut être dans les mariages, les anniversaires, n'importe quoi. Europe 1, si vous voulez.
Ok.
Ça toute l'année.
C'est une bonne question, Mathilde. Ils accompagnent partout, tout le temps.
Non, ils dorment avec moi. Donc, dès que je me réveille le matin, ils font ça. C'est vraiment. C'est pour ça que j'ai les lunettes noires. Non, vous savez ce que c'est avec Trump. Ils sont passés par des murs, des conneries.
Directement
de Mexico. Oui, c'est ça.
D'accord, de acuerdo.
José, vous vous souvenez quand vous étiez venu pour La Vérité si je mens ?
Oui,
elle était déjà, elle était, elle était déjà comme ça l'ambiance au Festival de l'Alpe d'Huez.
Elle a été incroyable, enfin déjà pour nous parce que nous on là, était
vous avez
déjà
le prix du public.
Complètement à côté de la plaque, on savait pas. Et mais c'est, je pense, le festival qui nous a plus porté bonheur à tous les gens qui ont des succès avec les comédies. Après moi ça a été La Vérité si je mens, Rire et Châtiment, Le Mac, voilà plein de films.
Oui,
comme
Le
ça,
Mac.
Voilà.
Ouais. Parmi les membres du jury, vous avez fait des belles découvertes pendant ce festival ?
On a, j'ai découvert Ruben.
Ruben Alves.
Alves de La Cage Dorée. Mm-hmm. Et Joséphine Japy, que je n'avais jamais croisée, que je ne connaissais pas. Michel, c'est une amie depuis longtemps.
Qui sont adorables.
Et Malik n'est pas là non plus.
Et Malik Bentala n'est pas là, c'est vrai.
Malade aussi.
Ouais. Et donc lui, il regarde les films aussi.
Pareil, pareil.
Pareil, ok. Mm. Pour terminer, si je vous dis quand te reverrai-je ?
Quand José. Te reverrai-je ! Ah, ils sont bloqués. Hein.
J'ai pas l'impression que ce soit la même.
Non, c'est pas la même.
On a très soif. On veut du Rosé Garcia.
C'était cette chanson qui est dans le film ?
On a vraiment soif.
Non, non. Non, non. Non, là, c'est une arnaque. Non, là, c'est une arnaque. Non,
attends, mais maintenant, il n'y a pas Étoile des Neiges,
Pays Merveilleux. Pays Merveilleux, ceux qui s'aiment, t'as deux.
Il y a une euphorie, parce que les mecs viennent quand même d'un pays très chaud.
Oui, c'est
dès
ça.
Dès qu'ils sont mis en montagne, alors là...
Et en même temps, vous les avez amenés à la neige, les pauvres.
Ah oui, ils sont fous, ils viennent dingues.
Merci beaucoup d'être venu nous voir.
Merci à Mathilde Seigné.
Appelez-nous quand vous voulez.
Oh bah avec grand plaisir. On va vous
appeler.
Attends, bon, repart.
Oh
là
là.
Merci.
Ah voilà, on se quitte sur un petit jingle. Bonne délibération.
Et, pff, oui, il est en grande forme.
Il est en grande forme.
Il est arrivé hier au QG du festival et on n'a entendu plus que lui et ses mariachis. Et...
En même temps, ça amène un peu de soleil, ça fait du bien. Vous étiez aussi en compagnie cette semaine, Franck, de la bande à Fifi.
Entre autres, évidemment.
Et vous leur avez préparé un quiz montagne.
À qui j'ai posé votre fameux questionnaire, Laurie.
Alors, à propos de l'Alpe d'Huez, Touchous ou Chasse-Neige ?
Touchous.
Chasse-Neige.
Touchous.
Moi, ni l'un ni l'autre, je suis nul. Je vais à Luge.
Fondue ou raclette ?
Moi, raclette à mort, j'aime pas. Ah ouais, raclette. Raclette.
Raclette.
Raclette avec de la charcuterie halal.
Genépi ou chocolat chaud ?
Moi, chocolat chaud.
Chocolat chaud.
Mytho, lui, c'est Genépi, lui. Putain, mon fils, je voulais l'appeler Choco. Et c'était refusé. J'aurais adoré. Qui s'appelle chocolat chaud, j'aurais adoré.
Jean-Claude Duss ou Popeye ?
Ah ! Eh ben tu sais quoi, on va dire parce qu'il est dans l'hôtel avec nous, Popeye.
Ah non, moi Jean-Claude Duss. Ouais.
Jean-Claude Duss.
Popeye.
Ah, il est au chamois d'or, Popeye les gars.
Ski ou raquette ?
Ski à mort.
Ski ah, aussi.
Ouais. Oh, ski, flemme la raquette.
Les fesses.
Les bronzés fonds du ski ou la reine des neiges ?
Les bronzés fonds du ski. Ah,
les bronzés fonds du ski.
Oui, évidemment.
Les bronzés fonds du ski.
Et si je vous dis quand te reverrai-je, vous me dites ?
Non mais c'est pas le bon air. Hein. Mais non, c'est quand te reverrai-je ?
Pays merveilleux,
tous ceux qui s'aiment
entre nous deux.
Oh là là.
Voilà, c'était la bande à Fifi. Je rappelle qu'ils sont ici parce qu'ils présentent Super Héros Malgré Lui hors compétition. La bande à Fifi qui revient dans ce festival où ils sont nés, puisque je rappelle que Babysitting a remporté le prix spécial du jury et le prix du public en 2014.
Et il y avait, c'est marrant parce qu'il y avait Junio qui était là pour d'autres films qui se sont croisés. C'est vraiment un festival ici très...
C'est une grande famille.
Voilà, la grande famille du cinéma, la célèbre, la fameuse.
Alors, ne bougez pas, on va se retrouver dans un instant. On va continuer à parler du festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le temps de marquer une courte pause. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. 14h, 15h. Clap. Laurie Choleva.
Merci d'être avec nous. Vous êtes toujours à l'écoute de Clap. C'est notre émission spéciale comédie. Et je suis en compagnie de Franck Vallière, évidemment, mais aussi Artus, qui est à mes côtés.
Bonjour.
Bonjour Artus. C'est votre première fois au Festival de l'Alpe d'Huez ?
Oui, c'est la première fois.
Ça se passe bien ?
Ça se passe très bien. J'ai réussi à ne pas manger trop de fromage, ce qui est plutôt un bel objectif.
Ah ben ça, c'est pas mal. Hein. C'est ce qui n'était pas mon cas, moi, ce midi. Vous présentez ici à l'Alpe d'Huez. J'adore ce que vous faites en avant-première. Un film de Philippe Guillard avec Gérard Lanvin qui joue son propre rôle.
Tout à fait.
Qui sortira au printemps, dans lequel vous jouez, comment on peut définir ce personnage ?
personnage de Momo. Un poulet
oui, c'est ça. C'est un fan un peu envahissant. Et qui est vraiment très proche du boulet, ouais, on va pas se mentir. Ouais.
Mais qui est vraiment très drôle et très attachant, finalement, aussi.
Bah, peut-être trop attachant, c'est peut-être le problème. C'est qu'il a du mal à s'en débarrasser parce que, mine de rien, il est fatigant, mais il n'est pas méchant.
Mais il est tellement positif en même temps. Il voit toujours le bien, il avance, toujours il y a toujours une solution. Voilà. Je ne sais pas si c'est la bonne solution.
Non, mais en tout cas, il se creuse. Il essaye de trouver des idées. Ce n'est pas la bonne idée, mais il essaie.
Pas toujours, non.
Non, rarement même.
Est-ce que vous êtes déjà retrouvé dans cette situation de quelqu'un qui vous aime bien et qui vous colle? Un fan, quoi.
Oui, oui. Et c'est vrai que c'est plus dur quand c'est des gens gentils. Parce que non, mais c'est vrai. Bah, le mec arrive un peu lourd, un peu brutal, un peu machin. Moi, je peux très vite dire « t'es relou, mec ». Enfin, tu vois, il n'y a pas cette distance où je dis « excusez-moi, monsieur, est-ce que vous pouvez permettre que je passe du temps avec ma famille ?» Mais c'est souvent, c'est les moments. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des moments d'intimité avec ma femme. Je me souviens qu'elle avait appris une mauvaise nouvelle. On était à table tous les deux, donc elle pleure, donc je la console. Et il y a quand même quelqu'un qui vient « excusez-moi, on peut faire une photo ?» Et tu dis « waouh, gars, t'as tellement pas le sens du timing. »
C'est ça.
T'es vraiment… C'est-à-dire que… tu n'observes rien en fait autour de toi.
Ouais, et puis souvent même ils ne s'observent pas les gens avec qui vous êtes forcément. Ça arrive, ils arrivent, ils coupent la parole.
Les gens avec qui on est n'existent pas.
Je vais demander une chose à propos de Gérard Lanvin. Comment joue-t-on Gérard Lanvin quand on est Gérard Lanvin? On sait qu'il n'y a rien de plus difficile à jouer que soi-même.
Ben ouais, en plus c'était très dur parce qu'il joue un Gérard Lanvin qui a un fan envahissant. Donc il doit être un peu saoulé. Donc il doit un peu durcir le trait du vrai Gérard Lanvin. Il doit jouer un Gérard Lanvin un peu plus bougon. Même si Gérard Lanvin est déjà très bien bougon.
Hein. Oh, mais il est sympa quand même.
Mais je veux dire, il doit jouer un. Donc en vrai, il ne joue pas vraiment Gérard Lanvin. Il joue un Gérard Lanvin un peu plus. Vraiment
un peu
en fin
saoulé,
de carrière. Enfin, le truc, c'est genre, il n'a plus de film, il a machin. Donc ce qui n'est pas le cas de Gérard. C'est un Gérard Lanvin d'un monde parallèle. Quoi.
Votre personnage lui dit à un moment donné, mais en fait, c'est pas dingue d'être acteur. On est assis toute la journée, on vous amène des cafés, des sandwichs. Quand il pleut, on vous amène un parapluie. Et puis le reste du temps, vous êtes assis, vous attendez.
Exactement.
C'est la définition de votre métier.
C'est exactement la définition
de
votre métier.
C'est la juste définition du métier.
Non, mais c'est drôle parce que ça fait partie des métiers qu'on rêve et qu'on rêve de, quand on est petit. Voilà, moi, le cinéma. Et en fait, il y a toujours, quand j'en parle à d'autres comédiens, il y a toujours une déception lors du premier tournage. Parce qu'évidemment, on arrive sur un truc, il y a les équipes, c'est chambé, c'est machin, ça va dans tous les sens. Mais il y a un rythme au cinéma, surtout quand on vient de la scène, qui n'est pas du tout le même. C'est du football américain. Et ça joue, ok, on s'arrête 20 minutes. Ça joue, on s'arrête 20 minutes. Et du coup, ouais, il y a un côté un peu... on passe beaucoup de temps sur une chaise, quoi.
C'est la phrase culte de Gabin qui avait dit pour faire du cinéma, il faut avant tout une bonne chaise.
Ouais, mais c'est vrai, c'est exactement ça.
Qu'est-ce qu'une bonne comédie pour vous? Est-ce que vous avez une comédie culte?
Oh bah j'en ai plein. Les plus récentes pour moi, c'est les OSS. Parce que je trouve qu'on a tendance à faire des comédies un peu lisses, un peu gentilles. Moi, j'aime bien quand ça pique un peu.
Ah, vous seriez bien dans OSS d'ailleurs?
Bah, j'aimerais bien.
On va en parler à Jean.
Ouais,
il le connaît bien, Franck. Ouais, il va lui en parler pour
et
vous.
Allez, bim.
Vous avez joué dans Pourri Gâté aux côtés de Gérard Jugnot. C'est un film qui cartonne là, sur Netflix. C'est incroyable ce qui se passe autour de ce film.
Ouais, c'est assez fou.
Vous attendiez un tel succès sur cette plateforme après la sortie ça?
Non, pas du tout. Mais je pense que c'est un peu la force de cette plateforme. C'est qu'on ne sait pas ce qui va exploser. La Casa des Papel, c'est une série qui était diffusée sur la télé espagnole, qui ne marchait pas. Qui est devenu le succès qu'on connaît. Squid Game, ça fait 15 ans qu'ils essaient de la vendre, personne n'en veut. Et c'est devenu... Donc c'est ça qui est génial, c'est qu'il y a un truc de loterie. Et pour y gâter, nous, en aucun cas, en plus, les films qui s'exportent un peu en France, c'est les films plus d'action. Là, on est devenu le troisième film français le plus vu au monde sur Netflix, derrière Bronx et Balles perdues.
C'est fou.
Qui sont deux films d'action. Enfin, la comédie ne s'exporte pas, parce qu'on ne peut pas faire rire un Suédois, un Allemand... Et un mec des Émirats de la même manière. Donc c'est improbable. Et on a adoré, on a trouvé ça génial.
C'est génial. Vous êtes appelés tous là, entre vous?
On s'est appelés.
Vous
avez
dit quoi?
Mais on comparait un peu les messages qu'on recevait. Parce que moi, j'ai vraiment reçu des messages, des vocaux et tout, en portugais, du Brésil.
C'est vrai?
Ouais, vraiment. Et maintenant, c'est drôle parce qu'ils continuent à commenter ce que je poste régulièrement, mais sans que je comprenne rien. Là, j'ai posté une vidéo et j'avais plein de commentaires en perso. Donc, je mets un like, je mets un petit cœur quand
Merci.
Même. Ça se trouve, il me traite d'enculé. Mais en tout cas, je mets un petit cœur par principe. Mais du coup, c'est génial. Ça ouvre un truc. Voilà.
Pour reparler de J'adore ce que vous faites, donc ça se passe sur l'univers des tournages, des stars, des caprices de stars aussi. Ce serait quoi, vous, votre plus gros caprice de star?
Non, mais ce n'est pas un caprice de star. J'ai eu une discussion avec des producteurs et je leur ai dit, parce que moi, pareil, comme c'était un rêve le cinéma, quand je suis arrivé au cinéma, j'ai démarré en gros par le bureau des légendes quasiment. Et sur le bureau des légendes, j'avais ce truc de cinéma, j'avais ma chaise avec mon nom et le nom du film. Et j'étais là, ah, bien. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était la seule fois de ma vie que je l'aurais. Que ça n'existe plus sur les tournages. Et je trouve ça tellement dommage. Je me suis dit, c'est une économie de quoi ? De 1000 balles, les gars ? Et puis surtout, je trouve, dans une époque où on Instagramme tout, machin, il n'y a rien de plus Instagrammable qu'une chaise de comédien avec le nom. La photo, on va tous la faire. Même le mec le moins Instagram, il va faire la photo avec son blaze sur la chaise. Et maintenant, c'est des chaises Décathlon avec un bout de gaffeur, avec écrit Arthus au gaffeur. Et donc, j'ai dit aux gens de Gaumont et tout ça, je leur ai dit, je vous en supplie, le prochain film qu'on fait ensemble, mettez-moi une chaise, juste pour faire kiffer ma mère et moi, mettez-moi une chaise. Je la paye s'il faut.
Ils ont dit oui.
La chaise. Ils m'ont dit, t'auras ta chaise.
Si vous pouviez, comme votre personnage Momo, coller au basket de votre idole, ce serait qui ?
Je pense que ça serait Gérard Depardieu.
Vous l'avez déjà rencontré ?
Non, je rêve de le rencontrer, j'adorerais tourner avec lui. Et en plus, je pense qu'il y a des gens qu'on adore dans leur métier, mais on dit, j'adore ce qu'il fait, mais je ne sais pas si je me verrais... bouffer avec lui ou passer une soirée avec lui. Gérard Depardieu, sans problème.
C'est sûr.
Plaisir. Attention, parce que si on le marque à la culotte, Gérard, il sort la boîte à baffes.
Hein. Mais je le suis. Il n'y a pas de souci. Il peut me mettre les baffes qu'il veut.
Il y a une phrase dans le film que j'aime beaucoup. C'est votre personnage qui dit « C'est de l'imprévu que naissent les souvenirs ».
C'est vrai. Quand j'étais plus jeune et que je faisais la fête, je sais que je n'aimais pas trop organiser. J'aime bien les soirées. Souvent, je trouve que les meilleures soirées, c'est celles où ça pue dès le départ. Où tout le monde te dit « Non, je peux pas, non, je peux pas, non, je peux pas. » Ah merde. Et tu te retrouves à 2, 3.
Faut improviser.
Bien, bon, qu'est-ce qu'on fait ? Bah, viens, on va dans le bar là. Et puis en fait, tu discutes avec des gens, machin, et t'as fini ta soirée à midi. À midi, t'es sur les quais de Seine en train de manger un kebab froid et tu fais.
Et de refaire le monde.
Ouais. C'était bien, non, cette soirée ?
Ça vous parle, ça, Franck, non ?
Oh, si peu, si peu.
Je balance. Comme nous sommes au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez, nous avons préparé un quiz montagne pour vous. On est allé chercher très très loin, vous allez voir. Très facile. Touchous ou chasse-neige ?
J'étais touchous, maintenant je suis chasse-neige. J'ai peur de tout maintenant.
À cause de ?
À cause des bobos, des blessures, des tournages. Là, j'ai pas skié par exemple. Ben ouais, mais juste un genou, un truc. J'ai 4 tournages derrière.
Oui, c'est mort.
Ça casse tout. Donc voilà, maintenant, ouais.
Fondu ou raclette ?
Fondu.
Cidre ou chocolat chaud ? Ou Genepi ?
Chocolat chaud.
Jean-Claudus ou Popeye ?
Ah, l'un ne va pas sans l'autre.
Ski ou raquette ?
Ski.
Bronzé fondu ski ou reine des neiges ?
Bronzé fondu ski, Reine des Neiges.
Pourquoi personne ne s'aventure avec la Reine des Neiges ?
Parce qu'on la déteste.
Moi, c'est Reine des Neiges en ce moment avec ma fille.
Parce que la chanson a fait qu'on déteste cette personne. Ouais, si elle existait vraiment, je pense que ça serait la personne la plus haïe de France. Elle marcherait dans la rue, les gens lui jetteraient des objets. Hey, ta gueule !
Bah, des boules de neige.
C'est sûr, si c'était une vraie personne, c'est sûr.
Boule de neige ou bonhomme de neige ?
Boule de neige.
Bataille de boules de neige.
Ah ouais, c'est bien ça.
Bien sûr.
Où tu mets des objets dedans.
Ah oui, c'est sympa ça.
Des piles, des boules de pétanque, tout ça.
Bloqué sur un télésiège, avec qui ?
Avec personne, parce que la personne va mourir. Parce que je suis beaucoup trop paniqué. Si le télésiège s'arrête, ou faut quelqu'un de très solide, faut Teddy Riner.
C'est vrai,
avec Teddy, sans problème. Quelqu'un qui puisse me canaliser.
Qui prend les choses en main.
Ah ouais.
Qui te dit, bah, là on va, non, lancer, on déjà, va balancer les skis.
Teddy et moi sur le télésiège, déjà tu peux être sûr que je me pose la question de l'importance, est-ce qu'il y a le poids. Ouais. T'es à combien là, Teddy, en ce moment ? Ah ouais, ok, machin. Il y a écrit quoi, le poids max ? Donc c'est sûr que non.
Pour terminer, si je vous dis, quand te reverrai-je ?
Pays merveilleux, où ceux qui s'aiment vivent à deux.
Pour terminer, vous présentez donc J'adore ce que vous faites ici en avant-première, puisque je rappelle ça sortira au printemps. Ça fait quoi de présenter un film au Festival de l'Alpe d'Huez ?
Ben c'est cool, encore plus en hors compétition, parce qu'il y a un côté un peu. Je peux pas perdre. Je peux pas gagner, mais je peux pas perdre.
Donc c'est que du plaisir, que ouais, des gens qui ça, vont venir vous dire que c'est super et qu'ils ont passé un bon moment.
En tout cas, ouais, en tout cas, c'est plus détente.
Arthus, pour terminer, vous avez dit Je suis un labrador, c'est l'amusement qui me guide et rien d'autre.
Et je maintiens. J'arrive juste pas à me lécher les couilles. C'est vraiment la seule différence. qui est quand même une différence assez importante.
C'est bien de le préciser. Alors, dites-nous tout. Il y a votre one-man show qui est prévu pour 2024. Vous faites plein de choses. J'ai vu donc le doublage d'un dessin animé Steve, Bête de combat, c'est ça ?
Oui.
Vous serez aussi dans Menteur l'été prochain, film d'Olivier Barou.
Oui, on a terminé le film Apache sur le gang Montmartre 3 en 1900 de Romain Quirot avec Neil Schneider, Alice Izaz et Rod Parado. Un homme heureux qui va sortir avec Fabrice Luchini et Philippe Catherine. Il y a King qui sort là en février, un film pour jeune public. Je crois qu'il y en a 6 ou 7 qui arrivent.
Oui, donc, on vous arrête plus, quoi.
On touche du bois. Mais... Putain, c'est un chalet,
il
n'y a pas de bois.
Il est un peu loin, mais vous méritez. Nous, on aime beaucoup vous voir au cinéma, sur scène,
merci
partout.
Donc,
on est fan. Merci beaucoup, Arthus.
Merci. C'est déjà fini, c'est triste.
C'est déjà fini, vous voulez rester
bien, bah ouais.
Il y a Kev Adams qui va arriver dans un instant.
Ah non, je vais y aller, du coup.
Merci.
Europe 1. 14h, 15h. Clap. Laurie Choleva.
Alors on continue à parler de films qu'on a beaucoup aimés et puis de, surtout de recevoir des personnalités qu'on aime encore plus sur Europe 1. C'est Kev Adams qui est à nos côtés.
Bah ça c'est mignon alors.
C'est un bel accueil. Hein.
Bah, très heureux d'être sur Europe 1 en direct de l'Alpe d'Huez, c'est énorme.
C'est franchement royal.
C'est rare que Europe 1 se déplace si loin.
Mais ce festival mérite.
Je suis d'accord avec toi. Je partage cet avis.
Qu'est-ce que ça fait d'ailleurs de présenter un film en compétition ?
Franchement, c'est la première fois, moi, bon déjà c'est la première fois que je viens à ce festival tout court, et c'est la première fois évidemment que je présente un film en compétition, et je trouve ça franchement très impressionnant. Hier j'ai été voir un film, du coup, parce que je me suis dit je préfère commencer par voir un film pour mettre un petit peu dans l'ambiance avant de... Exactement, et j'ai trouvé ça super impressionnant, super flippant aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens du métier, il y a aussi beaucoup de public et tout, et il y a un côté un peu... Bon bah voilà quoi, c'est ton tour, tu vas passer au jugement quoi, tu vois, et c'est vrai que ce côté-là fait un petit peu flipper, mais sinon je suis trop content et encore plus content de venir avec ce film-là qui me tient particulièrement à cœur, donc en règle générale c'est plutôt cool, c'est maintenant bien. Dire que je suis pas stressé pour ce soir serait un mensonge.
Ouais, bien sûr, il y a une appréhension, mais en même temps, et Franck qui est là depuis la semaine le sait, il y a quand même une bienveillance, il y a une envie du public de voir des comédies, et puis il y a la confiance aussi, pensez toujours que la sélection de l'Alpe d'Huez est généralement bonne. Donc,
c'est vrai.
Les projections se passent bien.
Oui, et puis de toute façon, il n'y a pas grand chose à craindre, Kev, parce que là, on est quand même sur un film de Thomas Gilou, La vérité,
oui, mais Kev, c'est quoi ce truc avachi dans son canapé, l'autre.
Non, mais je suis bien, moi, je suis très bien. Quand on joue avec Depardieu dans un film de Thomas Gilou,
c'est plutôt à la cool qu'on y va.
Alors, à la cool, absolument pas. Ça a été. Non, mais parce que ce film-là, particulièrement, a été très dur à faire. Ça a été une aventure. Physique et psychologique, vraiment comme j'avais jamais vécu auparavant.
Intense. Déjà, peut-être pour resituer, vous êtes à l'origine de ce projet.
Oui, tout à fait. Je l'ai coécrit avec Catherine Diamant, qui est une scénariste formidable. Mm-hmm. On a écrit ça à quatre mains. Et c'était génial. C'est la première fois que j'écris un script. Donc, déjà, c'est beaucoup. Enfin, on y met beaucoup de soi. Moi, j'ai été en partie élevé par mes grands-parents. Je suis très proche de mes grands-parents. Donc, forcément, il y avait une vraie volonté de ma part de rendre honneur à nos personnes âgées, de rendre honneur à nos aînés, de montrer à quel point ils sont bienveillants et à quel point à l'intérieur d'eux se cachent des gens de tous les âges, avec un sens de l'humour, avec une bienveillance dingue et avec surtout une expérience à transmettre qui me fascine. Et on a commencé à écrire ce film. Puis ensuite, on a proposé le film à Thomas Gilou, qui j'avais envie de travailler depuis longtemps pour des raisons évidentes. Et puis derrière, on a fait ce casting incroyable. Et puis on attaque le film. Et puis on ne trouve pas les financements. Ensuite, on ne trouve pas d'assurance. Il faut savoir que les assureurs ont très peur d'assurer un film dont la moyenne d'âge du casting est 77 ans. Pour eux, c'est l'enfer. Donc au final, on arrive à trouver une assurance gut, vraiment peu de temps avant le tournage. Et puis ensuite, on se dit bon, allez, on va y aller. L'assurance nous dit si vous arrêtez en cours de route, on ne vous assure plus. Moi, je me rappelle avoir dit cette phrase totalement innocente: je ne vois pas pourquoi on arrêterait un tournage en plein milieu.
Une crise sanitaire,
on n'a jamais fait ça. Auparavant.
Oui, vous avez tourné quand en fait ?
On a commencé le 22 février 2020.
Ah
eh, on voilà. a coupé le 13 mars 2020.
Ah. Là, c'est
pendant
terrible,
trois
ça.
Mois, avec un casting qui a encore une fois une moyenne d'âge de 80 piges et qui rentre chez eux dans une crise sanitaire sans précédent. On nous apprend que une de nos actrices est tombée malade, qu'elle est en réanimation à l'hôpital. Avec beaucoup de craintes, on a cru qu'on ne pourrait jamais reprendre ce film, que tout allait être jeté à la poubelle. Pour un premier film que tu coécris, c'est vraiment une sensation que je ne souhaite à personne. C'est très particulier.
Et que vous coproduisez aussi.
Et que je coproduis, ouais, mais pour le coup, la production, c'est un truc que j'ai l'habitude de faire avec Elisa, mon associée. Mais c'est vrai que là, quand tu écris un truc, c'est vraiment une partie de toi, quoi. C'est une sorte d'autobiographie aussi, un petit peu, quoi. Et puis finalement, elle se soigne, elle revient, on termine le tournage. Et après, ça a été la même galère pour les dates de sortie. On va sortir à ce moment-là. Non, les cinémas ferment, on va sortir à ce moment-là. Donc franchement, pour être honnête, j'avais jamais vécu autant de tannées sur un film, quoi. Ouais, c'est vraiment épique.
Vous allez bien la savourer, la sortie. Le premier matin, quand il sera dans les salles, là, vous pourrez vous dire ça y est.
Bah, en fait, oui et non, c'est-à-dire que j'ai hâte et en même temps, j'ai presque envie qu'il ne sorte jamais. Tu vois,
oui, parce que ça va créer un vide au final.
Déjà, ça va créer un vide et puis d'un coup, tu t'exposes à quelque chose de très concret, de très réel. Pour l'instant, il m'appartient qu'à moi, le film. Ouais. Enfin, quand je dis qu'à moi, c'est un peu égoïste, mais moi et l'équipe, nous, on l'adore, on est trop fiers de ce film. J'adore aller présenter partout, un peu en France en ce moment.
C'est ce que j'allais dire, il faut le partager parce qu'il est il fait tellement de bien, ce film. Il est tellement touchant.
Bah, c'est gentil, Laurie, ça fait très plaisir.
Mais d'ailleurs, on a une date de sortie mouvante.
Oui, le 23 février.
C'est le 16 maintenant.
Ah, c'est le 16
maintenant.
On a
avancé d'une semaine.
Ah oui, voilà, c'est ça.
Parce qu'il y a eu beaucoup de décalages, beaucoup de films qui sont partis du mois de février. Et du coup, nous, on s'est dit, on s'avance d'une semaine. Donc, on sort le 16 février.
On prend le créneau.
Ça reste un mercredi. Hein.
C'est un mercredi, exactement, exactement.
C'est bien, Franck.
Franck, qu'est-ce que vous avez pensé du film, vous, Franck?
Écoutez, moi, j'ai trouvé ça très bien qu'on s'intéresse aux aînés, et surtout de la transversalité.
Et oui, c'est-à-dire c'est surtout ça.
Il y a beaucoup d'aide à prendre chez les uns, chez les autres. C'est d'ailleurs une thématique très intéressante du festival dont on reparlera, Laurie, un peu plus tard.
Fort.
Bien sûr.
Fort, Franck.
Alors, moi, j'aimerais qu'on parle donc de Milan. Milan, c'est votre personnage.
Tout à fait.
On le prend au début du film. Il est un peu paumé, hein, on peut le dire.
Il est clairement paumé. C'est l'histoire d'un mec qui a grandi en orphelinat, qui en gros fait que
des conneries.
Pardonnez mon expression, mais que des conneries exactement dans la vie, et qui justifie tout ça par le côté « moi j'ai grandi sans parents, sans famille, donc c'est pas facile, donc c'est normal que je fasse des conneries ». Ce qui est évidemment
qui
pas
est
la
vrai,
bonne justification.
Voilà.
Et donc il fait des petites magouilles à droite à gauche, et un jour il va faire la connerie de trop. Et il va être condamné à des travaux d'intérêt général dans une maison de retraite. Il faut savoir que lui, les personnes âgées, ça le dégoûte. Il le dit dès le début du film, quoi. Il dit, moi,
il
les personnes âgées, vraiment, ça me... les vieilles personnes me dégoûtent, quoi, tu vois. Et donc,
là, cette scène très drôle au début du film avec la petite mamie qui est au supermarché, qui cherche ses petites pièces de monnaie. On a tous assisté à ce genre de scène.
Bien
et
sûr.
Généralement, on a beaucoup d'empathie.
Et lui, bon, il n'en a pas du
tout. Cas.
Non, lui, il a vraiment envie qu'elle dégage très vite. Et il se trouve que, j'aime bien ce genre d'histoire parce que c'est des histoires où la vie vient toquer à ta porte et te donne des bonnes leçons. Et c'était important pour nous de marquer aussi dans ce film le travail extraordinaire que font les aides-soignants, que font les aides à domicile aussi, dont on ne parle pas vraiment dans le film, mais c'est un sujet très lié. Y a des milliers de gens comme ça en France qui dédient leur vie aux autres pour essayer de faire en sorte qu'ils vivent mieux. Et donc, on a essayé vraiment d'être super précis là-dessus pour essayer de vraiment respecter le travail que ces gens font.
Avec Jarry, qui joue d'ailleurs un
exactement.
Aide-soignant, et une autre comédienne.
Manda Touré, qui est fantastique. Et il va découvrir cette maison de retraite, et évidemment, il va finir par s'attacher à ces
bien
personnes
sûr.
Âgées. Et,
mais là
et
où
c'est là que l'histoire démarre, finalement.
Mais là où le film est fort, c'est qu'on évite tous les écueils, toutes les évidences, tous les pièges de ce genre de film. C'est pas seulement un film avec le mauvais garçon qui arrive dans la maison de retraite et qui se fait cueillir par les personnes âgées. Il y a beaucoup plus, et c'est surtout que les personnages sont très bien écrits. Personnages joués par Gérard Depardieu. Il y a la mamie bougonne de 10% qui joue dedans,
Liliane
Rovert, qui est géniale. Marthe Villalonga qui s'offre une nouvelle jeunesse. Jean-Luc Bidault, Daniel Prévost, Firmin Richard, Mylène de Mongeau. Chacun vraiment amène quelque chose.
C'est exactement ça. Et puis, on a essayé de leur donner aussi une spécialité, une spécificité à chacun. C'est-à-dire qu'ils défendent chacun un thème qui est un thème qui leur tient à cœur, mais qui en même temps est d'une modernité folle. C'est le contraste avec des gens de 83 ans qui te parlent d'écologie, qui te parlent d'homosexualité. Quand ils te parlent de ces sujets-là, tu te rends compte que c'est des grands sujets de notre élection présidentielle qui arrive là dans quelques mois.
Bien sûr.
Et pourtant, c'est des sujets qu'eux défendaient déjà il y a 30 ans, il y a 40 ans. Donc, il y a aussi une manière, à travers tout ça, de dire... Les sujets principaux qui nous préoccupent en tant que société n'ont pas beaucoup évolué depuis 30 ans. Et c'est ça que je trouve fantastique à travers toutes ces petites scènes que j'ai avec eux, qui sont évidemment très drôles. Hein. C'est un film d'humour, il faut le rappeler, c'est vraiment une comédie. Mais en même temps, il y a toutes ces phrases importantes, et puis des phrases aussi sur la manière de vieillir, sur la vision qu'on peut avoir
aussi,
des personnes âgées.
EHPAD.
J'aime beaucoup cette phrase quand elle dit « il est orphelin, il faut l'aider, il est orphelin comme nous ». C'est vrai que quand on voit des personnes âgées, on ne pense pas au fait qu'ils ont perdu leurs parents. On se dit « c'est normal, c'est le cycle de la vie ». Ils ont perdu leurs parents parce que c'est des grands-parents. Mais en fait, c'est normal pour personne de perdre ses parents. Et quand tu regardes ces personnes âgées comme des orphelins, d'un coup, c'est un autre prisme qui vient dans ta tête. Donc, toutes ces phrases-là, pour moi, sont très, très, très importantes. Et c'est en ce sens aussi que je suis hyper fier du film. C'est que on se marre, c'est léger, c'est frais. Mais en même temps, il y a un vrai fond social supra-engagé, supra-vrai, et qui n'a jamais été autant d'actualité. Quand on a écrit ce film, c'était il y a 2 ans, il y avait déjà un problème et un sujet au niveau de l'isolement des personnes âgées. Là, depuis le Covid, c'est devenu délirant.
C'est-à-dire que moi, je pensais pas que... Abus de confiance aussi, à travers le personnage d'Antoine Duléry.
Tout à fait. Nous, on s'est inspiré que d'histoires vraies. On a ouvert les faits divers sur les 10 dernières années qui concernent les maisons de retraite, et 98% des histoires que vous voyez dans ce film, c'est des trucs qui ont existé. Donc on va se rendre compte évidemment qu'on abuse d'eux à un moment donné. C'est pas du tout quelque chose qu'on a inventé. C'est ça qui est dingue. C'est quelque chose qui a existé en France, et on parle pas de 1984. C'est un truc qui a existé. C'était très récemment, le fait divers qu'on a lu, nous, il datait de 2016 dans le sud de la France. Il y a un mec qui s'est fait arrêter parce qu'il se servait réellement dans les épargnes de ces gens-là. Il les empêchait de sortir. Enfin, je veux dire, en fait, c'est tellement un sujet vaste qu'on a essayé de traiter ce qu'on pouvait traiter, mais on pourrait en faire 3 des films là-dessus. Oui, Franck.
Et du coup, Gérard Depardieu, le monument, alors, ça fait quoi de tourner avec ?
Extraordinaire, évidemment. C'est quelqu'un de monumental, je le répète souvent, pour moi Gérard Depardieu est au cinéma ce que Johnny Hallyday était à la musique, cette espèce de monstre sacré que rien ne peut toucher. Et ce qui est dingue, c'est qu'il a vraiment adoré ce scénario.
Il a accepté facilement.
Non seulement il a accepté facilement, mais il a accepté, et c'est presque une aberration de dire ça pour Gérard Depardieu, mais il a accepté de venir franchement quasiment gratuitement, quoi. C'est-à-dire que le gars, il a tellement kiffé le rôle, il a tellement aimé l'histoire du film qu'il a dit, mais moi, c'est sûr que je suis avec vous. Et d'ailleurs, je trouve que ça se ressent dans le film pour avoir vu énormément de films avec Gérard. C'est vrai que parfois, tu sens qu'il est là sans vraiment être là. Il est là,
sur ses acquis.
Oui, c'est ça. Là, moi, dans ce film, il me bouleverse, tu vois. Il me bouleverse à plein de moments. Tu sens qu'il défend des choses auxquelles il croit. Il y a toute une scène où il y a un parallèle entre un combat de boxe et la vie. Il dit,
parce que c'est un ancien boxeur.
Tout à fait, c'est un ancien boxeur dans le film. Et il dit la vie, c'est exactement comme un combat de boxe. Il y a plusieurs rounds, tu prends des coups, tu mets des coups. Des fois, tu te prends une grosse baigne, tu es à terre. Mais on se relève toujours. Parce que si on n'est pas debout au round d'après, bah, on passe à côté de sa vie. Et je trouve que venant de ce gars-là, qui a vécu absolument tout, le cinéma en France, le cinéma à l'international, qui a vécu les plus grandes joies comme les plus grandes peines, je trouve que ça fait sens d'un coup.
Un mot aussi, Kev, sur le film de Claude Lelouch qui est en ce moment dans les salles, L'amour c'est mieux que la vie, où vous jouez le fils de Gérard Darmon.
C'est vrai, j'ai la chance aussi.
Une belle expérience de tourner pour Claude Lelouch.
Extraordinaire. C'est un metteur en scène incroyable, le fait qu'il m'ait fait confiance là-dessus, j'ai trouvé ça dingue. D'ailleurs, il y a étrangement un petit parallèle entre les deux films qui est que dans les deux, je boxe, ce qui est assez drôle puisque pour le coup, les deux films ont été faits totalement à des périodes différentes et tout, mais... Voilà, de jouer le fils de Darmon, c'était extraordinaire. De tourner avec Claude Lelouch, c'était extraordinaire. Donc, moi, je continue de saisir les chances qu'on m'offre et que la vie me propose, hein, franchement.
Là, j'allais dire, il se passe des belles choses pour vous. En même temps, c'est tellement mérité.
Bah, c'est
mais
gentil.
Ça fait plaisir. Et vraiment, je rappelle donc, vous allez nous redonner donc, la nouvelle date de sortie, Maison de retraite.
C'est le 16 février.
Le 16 février. C'est présenté ici au Festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez. Le jury va rendre son palmarès ce soir. Donc, on en parlera dans Clap la semaine prochaine. Mais voilà, on vous souhaite tout le meilleur, évidemment. Ce film, en tout cas,
c'est hyper gentil et j'y crois à fond. Et
on y croit à fond pour vous.
Si vous croyez que c'est important de reparler un peu de nos grands-parents après toutes ces années, eh bien, allez voir ce film, vous n'allez pas être déçus, vous allez vous marrer et vous allez penser... J'ai été montrer le film en avant-première la semaine dernière, il y a une jeune fille de 9 ans, à la fin je lui ai dit « t'as aimé le film ?» Elle m'a dit « oui ». Je lui ai dit « t'as envie de me dire quelque chose ?» Elle m'a dit « oui, vous m'avez donné envie d'aller voir ma grand-mère ». Et pour moi, c'était le plus beau compliment possible. Donc voilà, si vous pouvez emmener vos enfants voir Maison de retraite, ça sort le 16 février et j'en suis extrêmement fier.
Et puis ensuite, effectivement, on ira tous, si on en a encore la chance, faire un gros bisou à nos grands-parents parce que c'est vrai que ça donne
exactement.
Envie. Et c'est vrai que Kev l'a fait avec beaucoup de sincérité. Je sais que vous étiez très proche, vous êtes très proche de vos grands-parents. On va se quitter avec un quiz montagne.
Avec plaisir.
Parce que nous sommes à l'Alpe d'Huez.
Quand même. Vous allez voir, manquerait plus qu'on fasse pas le quiz montagne.
Franchement. Donc Touchous ou Chasse-Neige?
Plutôt chasse-neige.
C'est vrai.
Ouais, chasse la neige. Bah, je suis pas très à l'aise, moi.
Fondue ou raclette?
Plutôt fondue, moi.
Cidre ou chocolat chaud?
100% cidre.
Ou Genépi?
Alors, je suis plus cidre que Genépi, mais un petit Genep en fin de repas, on dit pas non.
Ouais, j'ai rajouté ça pour Franck. Ouais.
Je sais bien.
Quand on a son 15e de la journée, c'est pour ça qu'on l'entend pas tellement.
J'ai dit bonjour à Franck, j'ai l'impression que vous aviez déjà ouvert une bouteille. Ça empeste le Genépi dans toute la pièce.
C'est le Rosé Garcia qui sont encore.
Le Rosé Garcia, bien sûr.
Oh, le revoilà.
Ah, Rosé Garcia.
Ah.
Merde, pardon.
Donc José Garcia a oublié son manteau.
José Garcia, l'homme, la légende.
Il est beaucoup plus calme quand il n'est pas accompagné de ses mariachis. Hey, non.
Non, mais il faut préciser quand même que ce qu'il a fait, c'est du génie. Quand même.
C'est énorme.
C'est un génie.
Bah, c'est
déjà,
un génie.
C'est un génie d'acteur. Moi, il le sait, c'est que c'est un de mes acteurs préférés depuis des années. Et au-delà de ça... avec le rosé, quel bon nom de rosé, le Rosé Garcia. Bravo.
J'en étais où, ski ou raquette?
Je fais du snow, donc je fais pas trop de ski, mais plutôt snow du coup.
Les bronzés font du ski ou la reine des neiges?
Les bronzés font du ski.
Boule de neige ou bonhomme de neige?
Boule de neige, plus marrant, tu peux rigoler.
Plus taquin. Okay.
Taquin.
Bloqué sur un télésiège avec qui?
Ah, c'est une bonne question ça. Bloqué sur un télésiège avec.
Liliane Revers.
Oui, très bien. Ça m'irait très bien.
Ou Gérard Depardieu.
On aurait une très bonne discussion. Gérard, le problème, c'est que ça ferait un peu pencher le télésiège et on risquerait de glisser lui et moi, quoi.
Pour terminer, si je vous dis quand te reverrai-je?
Pays merveilleux, évidemment. Quel classique.
Et en chanson, ça fait quoi?
Quand te reverrai-je?
Oui, c'est vrai.
Pays merveilleux. La chanson s'achève. Je sais plus ce qu'il dit après. Des gens heureux. J'ai jamais trop bien compris les paroles, mais bon, évidemment, film mythique.
Film mythique. Merci beaucoup, Kev.
Bah,
à
merci
bientôt.
À vous. Merci de m'avoir reçu. Et des bisous, Europe 1.
Et on croise les doigts pour vous. Europe 1.
C'est la fin de cette émission spéciale comédie. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à Franck d'avoir été à mes côtés.
Oh, bah c'était pas un moment très difficile à tenir non plus.
On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Restez à l'écoute d'Europe 1 tout de suite. C'est William Lémergie. Et puis nous, on ne pouvait pas terminer cette émission sans rendre hommage à Gaspard Huyel, disparu tragiquement mercredi à seulement 37 ans des suites d'un accident de ski. Franck, comme partout ici à l'Alpe d'Huez, l'émotion était très vive.
La journée était effroyable. C'est-à-dire que c'était un homme, un acteur et un homme d'une discrétion, d'une gentillesse totale, le genre de type qui n'a pas besoin de faire du bruit pour qu'on sache qu'il est dans la pièce. Ça s'appelle le charisme et il était doublé d'une extraordinaire générosité et discrétion. Et finalement, il s'est passé quelque chose de très étrange. Mercredi, c'était juste avant la projection officielle du Jérôme Commandeur, Irréductible. La salle était pleine. Et en fait, au moment où on a affiché une photo de Gaspard Huyel sur l'écran, il y a eu quelque chose de magique, enfin, et de tragique en même temps. C'est-à-dire que tout le monde s'est levé, a fait une standing ovation en applaudissant sans que personne ne le demande. C'était un moment très, très perturbant et très émouvant, à la fois que les gens qui l'appréciaient le célèbrent dans une journée aussi horrible, mais ainsi va la vie.
C'est évidemment une terrible perte. Le monde du cinéma est terriblement choqué et reste sans voix depuis plusieurs jours. Une déferlante d'hommages, évidemment, sur les réseaux sociaux également. Gaspard avait été révélé il y a déjà 20 ans par des films comme Le Pacte des loups ou Les égarés d'André Téchiné, avant d'être sacré en 2005 César du meilleur espoir pour Un long dimanche de fiançailles de Jean-Pierre Jeunet.
Tu veux voir ce que je fais? Je te montrerai tout à l'heure, j'ai pas tout à fait fini. Bah pourquoi tu pleures?
Et Mathilde s'adosse bien droite sur sa chaise, croise les mains sur ses genoux et le regarde.
Alors une carrière exemplaire au cours de laquelle Gaspard Huyel alternait film grand public comme Jacques le Croquant et film d'auteur. On se souvient tous de son interprétation remarquable du couturier Yves Saint-Laurent dans la version de Bertrand Bonello en 2014.
Vous voyez, comme ça vous pouvez sortir uniquement avec vos clés et un paquet de cigarettes. Légère, c'est divin. Mettez un rouge à lèvres soutenu et vous serez merveilleuse.
Et puis on retiendra aussi de la carrière de Gaspard Huyel son interprétation glaçante d'Hannibal Lecter. Et puis évidemment ce rôle qui résonne aujourd'hui terriblement, celui d'un jeune garçon condamné qui vient l'annoncer à sa famille dans Juste la fin du monde de Xavier Dolan. Un rôle qui lui vaudra le César du meilleur acteur.
Et tout à coup, l'idée d'un déjeuner. Rattraper le temps perdu, non. Prévenir du temps qui reste. 12 ans, c'est long. Imprévisible. Et pourtant, ce n'est qu'un déjeuner en famille. C'est pas la fin du monde.
Gaspard Huyel venait de tourner dans la prochaine série Marvel, Moon Knight, qui sera diffusée sur Disney+ en mars. Sa carrière existait vraiment au-delà de nos frontières. Il préparait également une série pour Canal+, et s'apprêtait à tourner dans le prochain film de Bertrand Bonello. Une terrible perte pour le cinéma français et surtout la disparition, comme Franck vient de le dire, d'un homme bien, tout simplement, gentil, doux, sensible, lumineux, élégant, ce sont les termes qui reviennent le plus sur les réseaux sociaux. C'est vraiment tragique. Belle route à toi, Gaspard, et tu vas nous manquer terriblement.
Alors c'est ainsi qu'après toutes ces années-là, je pris la décision de revenir sur mes pas. Faire le voyage pour annoncer ma mort, l'annoncer moi-même et paraître pouvoir me donner et donner aux autres une dernière fois l'illusion d'être, jusqu'à cette extrémité, mon propre maître.